C'est la revue de presse des Hebdo. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
La France est mal notée, c'est à la une du Canard enchaîné.
Dégradée par Fitch à un an des JO, la France est mal partie pour les épreuves de notation. De AA à AA-. La faute notamment, selon Fitch, à l'impasse politique et aux mouvements sociaux parfois violents. Excusez-moi, qui constitue un risque pour le programme des réformes de Macron. Le maire est vexé. Un autre titre sur le bandeau de la Une a retenu mon attention. Grand groupe et grande surface, l'inflation des prix et des profits m'envoie directement en page 3. La pompe à profit s'emballe grâce à l'inflation. Hervé Liffrand a enquêté sur les bonnes recettes des vendeurs de bouteilles, de lessive ou de soda pour doper discretos leurs bénéfices. Et vous verrez que c'est un tourbillon de chiffres ascendants de ces bénéfices. Mais il n'y a pas que les bouteilles dont les prix ont pris un envol stupéfiant. En pharmacie, ce n'est pas triste. L'inflation a fait aussi des miracles dans les comptes d'exploitation des labos, des fabricants de couches. Exemple, plus de 46% sur le sérum physiologique. Le Saint-Ol a pris 39% et les couches Harmonie de chez Pampers, 44%. À la fin de l'année, les profits se chiffrent par millions et parfois même par milliards. Santé les mecs. Mais pour sourire quand même, un dessin en page 7. Un couple regarde à la télé. Charles III couronné à 74 ans. Elle. Oh, comme roi, il fait vieux. Lui, ouais, mais comme président américain, ce serait un gamin.
Le 1 pose une question bien plus audible aujourd'hui qu'hier. Pourquoi la France se réarme ?
Alors on peut reprendre l'adage qui date du IVe siècle. Qui désire la paix se prépare à la guerre. Ou encore lire ce qu'écrivait le sociologue Raymond Aron en 1939. Tous les peuples qui veulent vivre doivent avoir un minimum de volonté de puissance, de consentement à la violence. Dans son Zakouski, Laurent Grailsamer répond, et sa réponse peut nous surprendre simplement parce qu'avant la guerre en Ukraine, nous n'y prêtions pas attention. Je le cite. Depuis les débuts de la Ve République, la diplomatie et la défense sont le domaine réservé du président. La population n'y prête guère attention. Dans ces secteurs, les lois passent et nous regardons ailleurs. Et nous ignorons que depuis le premier jour de son premier mandat, Emmanuel Macron a engagé la rénovation de l'armée française en y consacrant 295 milliards d'euros et qu'une seconde loi de programmation militaire prévoit 413 milliards sur 5 ans pour sa modernisation. La lecture de cet article nous apprend que l'image de la France en matière de défense est bien meilleure à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors je vous laisse découvrir les analyses de nos atouts et de nos faiblesses faites par Thomas Gomard, historien, directeur de l'IFRI, la chercheuse Marine Le Gluigui. Il y a toujours un nom sur lequel je bute. Pourtant, je l'ai répété celui-là beaucoup, beaucoup. La chercheuse Marine de Guglielmo Weber, qui introduit le paramètre climatique dans son analyse. Le géographe Michel Fouché, qui termine son article ainsi. À l'extérieur, notre diplomatie continue encore et toujours de rappeler le primat du droit international et du respect des règles contre le recours à la force. À l'intérieur, notre société devrait reconnaître la réalité des réussites françaises dans le monde tel qu'il a l'inconvénient d'être.
Les espions sont de retour partout en Europe où la guerre en Ukraine provoque des vagues d'expulsion de diplomates, russes notamment. C'est le décryptage de Courrier International.
Dans les années 1980, il y avait en moyenne 7 ou 8 condamnations par an pour espionnage aux États-Unis. Trois décennies plus tard, en Europe, 42 personnes ont été condamnées pour espionnage entre 2010 et 2021, dont 37 au profit de la Russie. Contre une ou deux, 10 ans auparavant, c'est dire le basculement. On assiste à une course mondiale aux informations entre des États totalitaires et des régimes démocratiques, explique le responsable du contre-espionnage suédois à Politiken. Une course qui semble aujourd'hui se concentrer dans les États baltes et la Scandinavie. Le Portugal est aussi devenu un terrain de jeu de prédilection pour les services secrets iraniens, chinois et russes. C'est ce que raconte une enquête passionnante de l'hebdomadaire Expresso. En Allemagne, c'est une toute autre histoire qui s'écrit. Le BND, le Service fédéral du renseignement, est devenu la risée du monde de l'espionnage et elle ressemble à un très mauvais roman. En cause, sa cécité quant à l'invasion de l'Ukraine, mais surtout le scandale impliquant un de ses agents qui aurait été la taupe des services russes, révèle Der Spiegel. À Bruxelles, les murs ont des oreilles. Des centaines d'espions russes et chinois officient dans la capitale belge, assure l'hebdomadaire hongrois HVG. Dans une enquête au long cours publiée en mars, The Sunday Times se fait l'écho d'une tendance inquiétante outre-Manche, la fuite des militaires et des agents secrets vers le privé. Le secteur de l'espionnage industriel a pour épicentre les tribunaux de Londres, aujourd'hui plaque tournante internationale des litiges juridiques. Alors, c'est passionnant et c'est à lire en détail dans la chronique à la une en page 30.
On passe à l'Express.
Erdogan est en couve et les élections en Turquie sont chroniquées dans 6 articles. Mais j'ai choisi cette semaine d'explorer les chroniques intitulées « Analyse ». Quels sont les sujets dignes des analyses de l'hebdo cette semaine? Alors logiquement, Erdogan. Erdogan, Poutine, le pacte des autocrates. Et aussi, présidentiel en Turquie, Macron, Erdogan, une brouille inextinguible. Mais l'éclectisme des sujets traités par l'Express me fascine toujours autant. Les analyses passent de « Joe Biden, les Américains le trouvent trop vieux, mais » à Emmanuel Macron, entre les paroles et les actes, deux mondes parallèles. Et puis, un petit saut au Moyen-Orient. L'Israël de Netanyahou, grand perdant de la recomposition du Moyen-Orient. On file dans l'océan Indien, Mayotte, Comores, Madagascar, les agents de Poutine en mission commandée. La technologie est aussi matière à analyse. 100 000 bornes électriques en France, objectif atteint, et après... Géant de la tech, la fin de l'exception irlandaise. Et puis enfin, éolienne, un vent mauvais souffle dans la filière. Rien qu'en lisant les analyses, vous en avez pour votre argent et votre week-end prolongé du 8 sera bien rempli.
Il reste Télérama, assez sombre cette semaine et assez politique.
La couverture de Télérama donne le ton. Rapatriés de Syrie, quel avenir pour les enfants français? C'est le sujet du dossier. Près de 300 d'entre eux ont été rapatriés. Ils ont connu la guerre, les violences, la vie dans des camps insalubres. Leur mère est en prison. Pour faire la paix avec leur histoire, ces jeunes ont besoin de trouver leur place dans notre société. Les accueillir vraiment, c'est, outre le respect du droit international, accepter leur histoire qui est aussi la nôtre. L'invité de la semaine, le sociologue Didier Ribon, l'auteur de Retour à Reims, paru il y a 14 ans, parle de son dernier ouvrage, Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, dans lequel il revient cette fois sur l'existence de sa mère et son décès en 2017, quelques semaines après avoir quitté son domicile, pour résider dans un EHPAD de la Marne. Dans cet EHPAD, sa mère l'appelait au secours. « On me maltraite !» Par sa voix, le sociologue veut dénoncer un scandale collectif et en souligner la dimension politique. Et puis encore, au premier plan, la Conférence nationale du handicap, où on constate qu'on est encore loin du compte dans le domaine du handicap. En page 32, le constitutionnaliste Bastien François avertit « Le pouvoir et nos institutions se déconnectent dangereusement de la société. Nos élites voient le peuple comme un enfant. » Et en page 35, la chronique « Penser autrement » nous informe que des avocats tordent la loi au profit de leurs puissants clients au détriment de l'intérêt général. Sombre, tu as dit sombre ? Ah, un peu d'optimisme quand même. Enfin, pas pour Erdogan. Yann Perrot veut croire que les élections du 14 mai pourraient mettre un terme à l'autocratie d'Erdogan. Ouais, mais c'est pas gagné.
Alors, une fois de plus, tu as décidé arbitrairement de choisir l'horoscope que Rob Bresny a décrypté cette semaine pour les Sagittaires.
Bah oui, parce qu'il était plus rigolo que celui pour les Taureaux. Alors, voilà, je le lis maintenant. Celui des taureaux. Certains primates utilisent des plantes médicinales et de l'argile pour se soigner. Les grands singes, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles ingèrent une grande quantité et variée de végétaux et d'autres substances qui luttent contre les infections parasitaires et soulagent les troubles gastro-intestinaux. Beaucoup de peuples autochtones pratiquent aujourd'hui encore ce type d'automédication. Cher Sagittaire, je t'invite à prendre dans les semaines à venir tout le temps qu'il faudra pour approfondir tes connaissances sur ce que tu dois faire pour te soigner ou prendre soin de toi. Tes connaissances sur tes médicaments seront peut-être des plantes, mais aussi éventuellement de la musique, des histoires, des couleurs, des parfums, des livres, des relations et des aventures.